Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire, octobre 2007. Nous saluons cordialement tous les frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur, de tous les peuples, et de toutes les nations. Le but de cette lettre circulaire est de montrer à tous quelle responsabilité est liée à un appel et à un envoi divin. Quand le prophète Ésaïe était dans la présence de Dieu, en vision, il entendit ces paroles. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Il s'écria. « Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Alors une pierre ardente toucha sa bouche, et son iniquité fut enlevée, son péché fut expié. J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici. Envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. Jérémie écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1, 4 et 5. Au sujet d'Ézéchiel nous lisons. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ézéchiel 1, 3. En ce qui concerne le ministère des prophètes, l'apôtre Pierre a écrit. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. 1 Pierre 1, 12. Dans son épître adressée à Timothée, l'apôtre Paul met l'accent sur le fait que toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 et 17. Mandat et responsabilité. L'Éternel Dieu agit toujours de la même manière. Il détermine seul ce qui doit arriver, comment, quand et par qui cela doit arriver. Les saintes Écritures dans leur ensemble constituent la parole de Dieu, et elles nous décrivent le plan du salut de Dieu. Dieu a parlé au travers des hommes qu'il a lui-même mis à part. Par conséquent, il est important que nous croyions vraiment, comme le disent les Écritures. L'Ancien et le Nouveau Testament sont en parfaite harmonie. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé d'avance tout ce qui était lié à son plan du salut. Et dans le déroulement du Nouveau Testament, cela s'accomplit jusqu'au dernier moment, lorsque le temps débouchera dans l'éternité. Chaque homme de Dieu avait reçu une responsabilité qui lui était imposée par son appel divin. Noé avait reçu une responsabilité particulière pour son temps, dont l'effet est un signe d'avertissement, même pour le temps de la fin. Notre Seigneur avait dit, « Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Luc 17, 26. Il exécuta fidèlement la mission divine qu'il avait reçue, en avertissant ceux de son époque du jugement imminent, et il construisit l'arche dans l'obéissance de la foi. Genèse 6, 22. Noé trouva grâce auprès de Dieu pour faire sa volonté. Les incrédules ne prêtèrent pas attention au message d'avertissement. Ils n'entrèrent pas dans l'arche, et c'est ainsi qu'ils périrent. Cela ne leur était d'aucune utilité, que Jésus soit descendu en esprit, et qu'il ait prêché aux âmes en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, Au jour de Noé. 1 Pierre 3, 19 à 22. C'était définitivement trop tard. Seuls ceux qui entrèrent dans l'arche furent sauvés. Noé marcha avec Dieu, et fit tout exactement, comme il lui fut ordonné. Nous de même, nous devons marcher avec Dieu, et faire tout selon la parole de Dieu. Dieu fit d'abord une alliance avec Noé, et ensuite avec toute l'humanité. Il donna même un signe à son alliance, l'arc-en-ciel. C'est ainsi qu'il fit la promesse que les eaux du déluge ne détruiront plus la terre. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi, et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations, à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance, entre moi, et la terre. » Genèse 9, 12 et 13. Par le sang de l'alliance sur la croix de Golgotha, Dieu a fait avec nous une alliance éternelle. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. » Marc 14, 24. Dans Apocalypse au chapitre 10, juste avant l'établissement de son règne, le Seigneur descend en tant que l'ange de l'Alliance avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, et revendique la terre en tant que propriétaire légitime, en posant son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Abraham, le père de la foi, ne regarda pas aux circonstances, mais aux choses invisibles, comme s'il les voyait. C'est ainsi qu'il vit l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite. Avec Abraham, l'histoire du salut commença à prendre forme. Notre Rédempteur est aussi appelé « Fils d'Abraham », Matthieu 1 verset 1. Le Seigneur avait dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 3. L'apôtre Paul nous l'a résumé ainsi, « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc, que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Galates 3, 6 à 14. La responsabilité qu'eut Abraham est un exemple pour tous les croyants qui marchent sur les traces de la foi. Romains 4, 12. Finalement, Dieu lui donna le fils promis. Abraham fit tout ce que Dieu lui avait dit dans une obéissance totale, étant même disposé à offrir Isaac en sacrifice, car il croyait que Dieu le ressusciterait des morts. Genèse 22, 5. Romains 4, 17. Hébreux 11, 19. Ceci est la vraie foi, la foi vivante résultant de la responsabilité qu'il avait devant Dieu. Si nous croyons les promesses de Dieu comme Abraham l'a fait, nous les verrons s'accomplir, parce qu'en Jésus, elles sont oui et amen. 2 Corinthiens 1, 20. Moïse avait reçu une grande responsabilité envers Israël, et ce, en relation avec son appel. L'Éternel Dieu lui était apparu dans un buisson ardent, pour lui donner l'ordre de faire sortir le peuple, et il lui assura qu'il serait avec lui. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Exode 3, 15. Moïse portait une grande responsabilité pour l'Assemblée d'Israël. Responsabilité en relation avec l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham, lorsqu'il lui dit qu'il délivrerait ses descendants de l'oppression qu'ils subiraient dans un pays étranger après 400 ans. Genèse 15, 13 et 14. Moïse vit l'accomplissement de cette promesse, étant lui-même celui qui fit sortir Israël de la servitude. Moïse vit Israël devenir le fils premier-né. Exode 4, 22 et 23, le peuple de Dieu. Exode 5, 1, et l'assemblée de Dieu. Exode 12. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11 à, et Moïse demanda à l'Éternel. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Exode 33, 13. Cela est le désir de chaque véritable serviteur de Dieu. La responsabilité qu'avait Moïse devant Dieu consistait à faire tout ce qui lui avait été ordonné, de la manière dont cela lui avait été dit, et aussi à rendre témoignage de ce qui lui avait été révélé, selon ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, 5 et 6. Josué avait également un devoir particulier. Il devait conduire le peuple qui était sorti de la servitude jusque dans le pays de la promesse, en leur faisant traverser le Jourdain. L'Éternel Dieu dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Josué 1, 2. Ainsi Josué donna cet ordre. « Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. » Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué 1, 10 et 11. La nourriture naturelle était nécessaire pour fortifier le peuple afin qu'il puisse prendre possession du pays promis. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour être fortifiés, afin de pouvoir prendre possession de tout ce que Dieu nous a promis. Josué avait également une grande responsabilité envers le peuple d'Israël. Par son ministère, se réalisa l'achèvement de l'œuvre que Dieu avait commencée avec Moïse. La parole révélée au prophète Moïse fut placée dans l'arche de l'Alliance qui était portée par des hommes spécialement désignés à cette tâche. La muraille de Jéricho s'écroula, le soleil s'arrêta même au milieu du ciel, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que le peuple de Dieu ait remporté la pleine victoire. Josué chapitre 6 et 10. Élie avait la mission de ramener le peuple d'Israël à l'Éternel leur Dieu. Il se rendit sur la montagne du Carmel, prit 12 pierres d'après le nombre des tribus d'Israël, rétablit l'autel, y plaça l'holocauste, versa de l'eau sur l'holocauste et le bois. Ensuite, il invoqua l'Éternel Dieu au moment de la présentation de l'offrande du soir. Il fut exaucé à l'instant même, car Élie avait tout fait, selon l'ordre et la parole de l'Éternel. Il pria. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et c'est toi qui ramènes leur cœur. 1 Rois 18, 37. Dieu répondit par le feu, lequel consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau, qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et dirent. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Ce jour fut la fin des 450 prophètes de Baal, et des 400 prophètes d'Astarté. En ce temps-là, Élie porta la plus grande responsabilité sur terre. En vertu de l'appel divin, il fit tout ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné dans l'obéissance. Et Dieu ramena à lui-même le cœur de son peuple. Tous les prophètes que Dieu envoya, tout au long de l'Ancien Testament, reçurent individuellement un appel divin, et eurent une grande responsabilité devant Dieu, comme personne d'autre n'en eut, en leur temps. Cependant au commencement du Nouveau Testament, avec le ministère de Jean-Baptiste, était liée une responsabilité particulière dans l'histoire du salut. Il fut le prophète promis qui devait introduire le Messie promis. Il fut l'homme que Dieu envoya avec le message pour le peuple de Dieu afin que tous crussent par lui. Jean 1, 6 à 13. Conformément au dessein éternel de Dieu, il prépara le chemin du Seigneur et ramena le cœur des pères de l'Ancien Testament à la foi des enfants de la Nouvelle Alliance. Il fut destiné à préparer au Seigneur un peuple bien disposé, comme il est écrit dans Luc 1, 16 et 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Qui peut vraiment mesurer le poids de la responsabilité liée à un mandat divin et à un ministère que Dieu a promis en relation directe avec l'histoire du salut? Le Seigneur lui-même avait promis dans Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et il fut prédit par Ésaïe le prophète. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ésaïe 40, 3. Nous trouvons dans plusieurs écritures du Nouveau Testament la confirmation de ce ministère. Matthieu 11, 10 à 15. Marc 1, 1 à 4. Luc 7, 27 à 30. Jean 1, 19 à 28. Notre Seigneur était le Messie promis et le Rédempteur. Il fut reçu par les uns, et rejeté par les autres. À ceux qui le reçurent, il leur accorda le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Quand il vint dans la chair, il eut la plus grande responsabilité, qui consistait à accomplir l'œuvre de la rédemption. L'apôtre Paul dit, « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. » Acte 13, 32 et 33. Notre responsabilité aujourd'hui est d'annoncer l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption à toute l'humanité. Telle est la mission confiée à l'Église du Nouveau Testament depuis sa fondation au jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre fut choisi, et se leva au milieu des frères, quand les 120 étaient rassemblés dans la chambre haute. Acte 1, 15. Lui aussi fut un homme, qui avait reçu un appel divin, lié à une responsabilité directe devant Dieu. Pierre fut le premier à qui le Seigneur confia les clés du royaume des cieux, suite à la révélation divine de Jésus-Christ qu'il avait reçue. Matthieu 16. Il agissait sous l'ordre direct du Seigneur ressuscité. L'homme de la première heure prêcha la première prédication sous la conduite et l'inspiration directe du Saint-Esprit. Sur ce point, il est nécessaire de souligner que la dernière prédication d'un homme de Dieu, avant le retour de Jésus-Christ, sera telle que fut la première, et le dernier service de baptême sera telle que fut le premier, lorsque l'Église du Nouveau Testament fut établie. Le modèle biblique reste valable depuis le premier jusqu'au dernier jour du temps de la grâce. Premièrement la prédication, de laquelle vient la foi, est apportée, ensuite le Saint-Esprit nous conduit à la repentance, à la conversion à Christ le Rédempteur, et enfin vient le baptême du vrai croyant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La conversion, l'appel et l'envoi de l'apôtre Paul sont connus de tout lecteur de la Bible. Son ministère avait une responsabilité unique, comme aucune autre pour l'Église du Nouveau Testament. Il a établi chaque chose dans l'Église dans l'ordre divin, en montrant la place correcte des ministères dans le corps de Christ, et l'exercice des dons de l'Esprit, qui sont donnés pour l'édification de l'Église. Il a aussi traité de manière détaillée chaque thème biblique. Sa mission était la plus importante pour l'ensemble de l'Église du Nouveau Testament. Ce fut l'apôtre Paul qui prononça la malédiction sur tous ceux qui prêchent un autre évangile. Galates 1. Aujourd'hui, le monde religieux est rempli de personnes prêchant un autre Jésus et un autre évangile, parce qu'elles ont reçu un autre esprit. 2 Corinthiens 11, 4. L'apôtre Jean fut déporté sur l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu, et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, 9. Lui aussi avait reçu une responsabilité particulière devant Dieu. Dans un isolement total, le Seigneur lui montra tout ce qui se passerait jusqu'à la fin des temps. Il vit le Seigneur sur son trône. Apocalypse 4. Il vit le livre mystérieux qui était scellé de sept sceaux. Apocalypse 5. Il vit dans le ciel l'Église épouse revêtue de fin lin, et entendit la troupe des vainqueurs qui disait comme une voix forte, Alléluia. Apocalypse 19. Il vit le règne de mille ans de Christ, pendant lequel il y aura la paix. Il vit la première et la deuxième résurrection. Il vit le jugement devant le trône blanc. Apocalypse 20. Il vit même les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Apocalypse 21. Aucun autre en ce temps-là n'avait le même appel, et par conséquent, la même responsabilité directe devant Dieu. Il devait écrire tout ce qu'il avait vu et entendu. Apocalypse 1, 11, afin que cela nous parvienne aujourd'hui. Amen. Tout au long de l'histoire de l'Église, apparurent également des hommes qui n'avaient reçu aucun ministère, et aucun appel direct. C'étaient des hommes qui avaient un certain enthousiasme religieux, et ils sortirent du paganisme pour se convertir au christianisme, non pas à Christ, et n'ayant eu aucun mandat divin. Depuis le concile de Nicée, en 325 après Christ, une confession de foi entièrement antiscripturaire fut formulée. C'est ainsi qu'une église populaire sans apôtre et prophète fut fondée dans l'Empire romain, en complète contradiction avec l'église primitive, qui était fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, 20. Après les mille ans de règne absolu de l'Église catholique, apparut un puissant réveil spirituel au temps de la Réformation. Des hommes de Dieu tels que Wycliffe, Huss et d'autres furent éclairés par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sondèrent les saintes Écritures et reçurent la parole de Dieu dans leur cœur. C'est ainsi qu'ils frayèrent le chemin aux réformateurs. Ensuite apparurent Martin Luther, Philippe Melanchthon, Ulrich Zwingli, Jean Calvin, et d'autres qui annoncèrent librement l'Évangile. D'autres réveils suivirent sous John Wesley, de qui se réclament les méthodistes, sous John Smith, le fondateur du mouvement baptiste, sous Menno Simons, fondateur de l'église mennonite, ainsi que Dwight Moody et tant d'autres. Il y a environ un siècle, le puissant réveil pentecôtiste fit une percée d'ampleur mondiale, par des hommes simples remplis du Saint-Esprit, qui rendaient témoignage de Jésus-Christ comme leur Sauveur, et comme celui qui baptise du Saint-Esprit, et de feu. Matthieu 3, 11 et 12, Actes 11, 15 et 16. Après la Seconde Guerre mondiale, ce fut William Branham, que Dieu appela de façon particulière. Il reçut de Dieu une mission spéciale liée à un ministère prophétique. Même ses détracteurs admettent qu'un tel ministère n'a plus existé sur terre depuis les jours de notre Seigneur. Le 7 mai 1946 fut un jour très spécial, jour que Dieu lui-même avait choisi pour donner la commission à son serviteur, et le but lié à son appel. Sur ce point, nous arrivons à la promesse principale concernant notre temps, promesse qui ne pouvait rester inaccomplie. Maintes fois, j'ai dit et écrit dans mes différents exposés, que Dieu fait toujours tout ce qui est lié à son plan du salut, selon sa parole, afin que cela puisse être examiné et éprouvé en tout temps. Le test doit être fait sur base de la parole de Dieu. Chaque prophétie et promesse qui était en rapport avec la première venue de Christ, s'accomplirent littéralement. Cependant, elles ne furent pas reconnues par les scribes et les docteurs de ce temps-là, parce qu'ils étaient spirituellement aveuglés par leurs propres interprétations. Aujourd'hui encore, l'histoire semble se répéter. Aucune circonstance ne nous autorise à interpréter une prophétie biblique. 2 Pierre 1, 20. Mais elle doit être vue et reconnue dans son accomplissement. Les interprétations sont toujours l'œuvre de l'adversaire et elles sont des obstacles sur notre chemin. En fait, elles nous empêchent de voir, par révélation, l'accomplissement de la parole de Dieu. Dans cette dernière phase du temps de la grâce, Dieu lui-même a fait cette promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ceci est le, ainsi dit le Seigneur. Nous vivons encore dans le temps de la grâce, qui nous est décrit comme jour du salut. Ésaïe 49, 6 à 8, 2 Corinthiens 6, 2. Le temps de la grâce qui a commencé lors de la première venue de Christ, prendra fin, pour les nations, lors du retour de Christ, qui nous est promis dans Jean 14, 1 à 3. Et c'est seulement après cela que viendra le dernier jour, le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Le Dieu fidèle a veillé sur sa parole, et accompli ce qu'il avait promis. Pouvait-il en être autrement? En effet, il nous a envoyé un homme qu'il a établi lui-même prophète, comme Élie. Celui qui ne voit pas cela, et ne le reconnaît pas, vit dans les ténèbres spirituelles, et ne se trouve pas dans le royaume de Dieu. Ou alors, il n'a pas encore reconnu le jour de la visitation de Dieu dans sa grâce. C'est seulement après que nous ayons reçu la révélation de la parole prophétique, que celle-ci pourra briller comme une lampe dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, 19. En rapport avec cela, la question suivante doit être posée. Que signifie le jour du Seigneur, qui doit être précédé de l'envoi d'un homme comme Élie? Nous avons déjà brièvement mentionné ce que Élie avait fait. Maintenant, il s'agit du mandat divin pour notre temps, qui consiste à éloigner les cœurs des enfants de Dieu de tout ce qui n'est pas conforme à sa parole, et de les ramener au Seigneur. Maintenant, il faut que la doctrine originale des 12 apôtres soit prêchée, comme au commencement, pour que l'Église à la fin des temps soit rétablie dans sa position originale, et qu'elle soit édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 13 à 22. Que prédit l'Écriture? D'un côté, il est dit que des faux prophètes et des faux Christs apparaîtront en grand nombre, et qu'ils séduiront beaucoup de gens, et même les élus si cela était possible. Matthieu 24. De l'autre côté, nous avons la promesse suivante. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4, 5. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur a aussi confirmé cette promesse de grande importance. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Matthieu 17, 11. Il leur répondit. Élie viendra premièrement, et rétablira toutes choses. Marc 9, 12. De même, il confirma le ministère de Jean-Baptiste qui était déjà accompli. Il vint avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité, comme ils ont voulu. Verset 13. Voici quelques écritures qui décrivent ce qui se passera quand le jour du Seigneur viendra. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère, et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude, et en exterminera les pécheurs. Ésaïe 13, 9. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Joël 2, 31. Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations. Abdias, verset 15. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Matthieu 24, 29. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Marc 13, 24. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Acte 2, 19 et 20. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, 10. L'apôtre Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, 10. Il vit le livre scellé de sept sceaux dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il vit l'agneau prendre le livre et en ouvrir les sceaux. Ce fut effectivement à frère Branham que la révélation des sept sceaux avait été accordée d'une manière surnaturelle en mars 1963. Les quatre premiers sceaux se déroulent parallèlement aux sept âges des églises. Le cinquième sceau parle des Juifs qui avaient été immolés, et de ceux qui devaient encore être mis à mort. Apocalypse 6, 9 à 11. Bien entendu, cela arrivera après l'enlèvement, et après le ministère des deux témoins. Apocalypse 11. Par l'ouverture du sixième sceau, nous apprenons davantage sur le commencement du jour du Seigneur. Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Apocalypse 6, 12. Oh, comme la parole de Dieu est claire! Avant que le soleil ne perde son éclat, et que la lune se change en sang, avant que toutes les œuvres des hommes se dissolvent en flammes, avant la purification du monde, Dieu avait promis d'envoyer un prophète. C'est la plus importante promesse qui devait s'accomplir en notre temps. Quand un vrai prophète entre en scène, et que son ministère est confirmé par Dieu, notre attention doit alors être attirée sur le message qu'il apporte. Sur ce point important, il s'agit de l'appel, et du mandat qui avait été donné à frère Branham, et nous n'avons point honte du choix de Dieu. Un des événements particuliers fut l'expérience surnaturelle que frère Branham eut le 11 juin 1933, pendant le service de baptême dans le fleuve Ohio, après sa première campagne d'évangélisation. Une voix sortant de la nuée surnaturelle lui dit à trois reprises. Lève les yeux. Quand frère Branham leva les yeux, il vit la lumière surnaturelle, et la voix puissante du Seigneur lui dit. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, de même tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. En avril 1966, à Jeffersonville, Indiana, USA, j'ai rencontré plusieurs témoins oculaires qui étaient présents lors de cet événement. à cet envoi surnaturel, est liée une responsabilité sans précédent pour l'Église de Jésus-Christ. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Cette parole est encore valable. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7. Nous croyons cela, tel que c'est écrit. La promesse que Dieu enverrait un prophète à la fin du temps de la grâce, avant que vienne le jour du Seigneur, s'est accomplie et a été confirmée. Aucun enfant de Dieu n'a le droit de mépriser un ministère établi par Dieu, autrement s'accomplirait Actes 13, 41. Voyez, contempteurs, soyez étonnés, et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Dieu n'a besoin de personne à qui demander conseil pour ce qu'il doit faire. Il a seulement des obligations envers sa parole, et il porte l'entière responsabilité de la réalisation de son propre dessein du salut. Il envoie ses serviteurs avec une mission directe, qui par appel divin, prennent part à cette responsabilité, et à la réalisation de son plan du salut. Au XXe siècle, que ceci soit accepté ou pas, il n'y eut aucun homme sur la face de la terre, qui comme frère Branham reçut de la part de Dieu lui-même, un appel direct, une mission, un envoi en relation directe avec le plan du salut de Dieu pour le temps de la fin. Plusieurs des évangélistes qui prirent part à la première vague de réveil vivent encore, tout comme certaines personnalités du mouvement charismatique issues des réveils consécutifs. On pourrait demander à chacun d'eux s'ils ont reçu un appel direct, un envoi, et s'ils peuvent indiquer le jour, l'heure et le lieu où l'ordre de mission divine leur a été confié en relation avec l'histoire du salut. En effet, il n'y a jamais eu auparavant autant d'activités religieuses, comme on en voit aujourd'hui. Cependant, avec des programmes impressionnants, ils construisent tous d'une manière ou d'une autre leur propre royaume dans le royaume de Dieu. Tout observateur averti se rend bien compte de ce qu'il en est réellement. Du divertissement, et de l'animation religieuse, décorée d'histoires bibliques. Je réitère de nouveau ce qui suit, par mesure de conscience. Par le ministère de frère Branham, s'est accomplie la promesse qui est écrite dans le prophète Malachie. Le chemin de Dieu nous conduit vers le mandat divin de l'heure, non pas à côté. Tous savent que nous sommes arrivés à la fin des temps, et que le retour de Jésus-Christ est très proche, même si personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Si à frère Branham, il fut dit que le message qui lui a été confié précéderait la seconde venue de Christ, cela signifie que tous ceux qui veulent être prêts lors du retour de Jésus-Christ sont liés à ce message. Dieu a toujours envoyé un seul homme à la fois, en vue d'un ministère extraordinaire à qui il transmettait la plus grande responsabilité. C'était toujours un seul homme, dans un temps particulier. Ces hommes recevaient de Dieu lui-même leur mission, conformément au plan du salut. Seul celui qui reconnaît cela, acceptera un tel ministère. Et il croira la parole que Dieu a révélée et prononcée par son serviteur. Heureux tous ceux qui reçoivent un homme envoyé de Dieu. Malheur à ceux qui ne le font pas. Ce que le Seigneur a dit au sujet de ses envoyés reste valable pour toujours. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Luc 10, 16. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, 20. Nous devons encore une fois répéter ceci. Quiconque méprise un ministère promis et établi par Dieu, méprise et passe à côté de Dieu lui-même et de ce qu'il fait. Patience et persévérance. En rapport avec l'enlèvement et le rétablissement de toute chose qui doit avoir lieu auparavant, nous avons deux exemples caractéristiques. Le premier est celui d'Enoch, et le deuxième est celui de Job. Job expérimenta au double la restitution de ses biens, et Enoch reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Job passa par de dures épreuves comme aucun autre homme en son temps. Lorsque les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, il arriva que Satan aussi se trouvait au milieu d'eux. Il demanda la permission de prendre tout ce que Job possédait. C'est ainsi que Satan le frappa cruellement à tel point que sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, et meurs. » Job 2. Mais Job resta fidèle à Dieu et Dieu prouva sa fidélité envers son serviteur. Satan avait le droit de tout détruire, mais il n'avait pas le droit de toucher à son âme. Ce n'est qu'à la fin de l'épreuve que vint la restitution, et l'Éternel rétablit Job dans son premier état, et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, 10. Dans le Nouveau Testament, Jacques se référa à ce thème, et encouragea les croyants à être patients. Il écrit au sujet de la pluie de l'avant, et de l'arrière-saison, qui doit venir avant le retour du Seigneur, disant « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Jacques 5, 7 à 11. L'écriture suivante s'applique à tous ceux qui sont sincères dans leur cœur, et qui veulent avoir part à la restitution, et à l'enlèvement. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Hébreux 10, 35 à 39. Oui, viens bientôt Seigneur Jésus. Amen. À Enoch, le septième depuis Adam, Dieu accorda un privilège spécial. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse 5, 21-24. Il donna seulement une prophétie, qui n'est même pas écrite dans l'Ancien Testament, mais qui est mentionnée dans le Nouveau Testament. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Jude 14 et 15. Au sujet d'Enoch, nous lisons également dans le Nouveau Testament. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, 5. Ceci est le message le plus important pour tous ceux qui veulent être enlevés dans la gloire. Au sujet du Fils de Dieu, il est écrit. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Pareillement, tous les fils et les filles de Dieu doivent dans la foi et dans l'obéissance passer par le baptême d'eau, et également par le baptême du Saint-Esprit, par lequel ils reçoivent la sanctification, afin d'obtenir le bon plaisir de Dieu, car il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, 5. L'écriture suivante nous décrit ce qui est promis à tous ceux sur qui repose le bon plaisir de Dieu, comme ce fut le cas avec Enoch. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Quelle vocation céleste, quelle prédestination d'être ainsi élu, et de connaître ce qui attend tous ceux qui prendront part à la première résurrection, et à l'enlèvement. La grande leçon que nous apprenons d'Enoch, le septième depuis Adam, est la suivante. La marche avec Dieu conduit au témoignage que nous lui sommes agréables, ensuite cette marche avec lui nous conduira jusqu'à l'enlèvement. Obligation d'un envoi divin. Maintenant, nous devons prêter l'oreille à ce que le Seigneur dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Matthieu 10, 41. Plusieurs arguments ont surgi sur ce sujet, car beaucoup de gens se sont levés, clamant être des prophètes, et ils ont ensuite formé de nouvelles communautés ou religions avec leurs adeptes. Mais cela démontre clairement qu'ils sont des faux prophètes. Un vrai prophète est un homme envoyé de Dieu, avec un message divin pour l'Église en accord avec le dessein éternel de Dieu. Un tel homme ne prépare pas son propre chemin, il fraye le chemin du Seigneur, et unit l'épouse à l'époux. Certes, Dieu a repris son serviteur, mais le message que son serviteur a apporté est resté avec nous. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Qui porte ce message de manière claire, comme du cristal dans le monde entier avec une mission divine, qui n'ajoute rien aux saintes écritures, et n'interprète aucune des citations du prophète, qui dit à toute l'humanité que Dieu n'est responsable que de ce qu'il a promis dans sa parole, et qui est révélé dans le dernier message, les choses auxquelles les hommes s'attendent, mais qui ne sont pas formellement écrites dans les saintes écritures, n'apporte que des divisions, et des déceptions. Matthieu 25 ne doit pas non plus être interprété. Ce chapitre décrit ce qui se passera lors du retour de l'époux céleste. Les vierges sages entreront dans la salle des noces, les vierges folles resteront devant la porte fermée. Il est écrit. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Verset 10. Au chapitre 24, le temps de la fin est décrit dans tous ses aspects, comme dans aucun autre passage de l'Écriture. C'est dans ce chapitre que la question fut posée au Maître. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du monde? La suite est une explication détaillée de tout ce qui arrivera sur la terre au temps de la fin, ainsi que l'avertissement. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les élus feront l'exception, parce qu'ils ne peuvent pas être séduits. Les faux uns et les faux prophètes croient qu'ils sont confirmés par des signes et des miracles qui s'opèrent parmi eux, mais ils ne sont pas en accord avec les enseignements de Christ tels qu'ils ont été enseignés par les apôtres et les prophètes. À la fin du chapitre 24, le Seigneur pose la question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Cela nous rappelle cette parole du Seigneur. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Le Seigneur fidèle achèvera son œuvre de rédemption avec les siens, car ils sont destinés à être trouvés dans sa volonté et dans sa parole. L'achèvement de l'œuvre de la rédemption atteint maintenant sa dernière phase. La parole de Dieu est devenue notre nourriture spirituelle, et notre moyen d'orientation. Notre profond désir est que sa volonté nous soit révélée, et qu'elle soit faite, particulièrement en relation avec l'achèvement de son œuvre. La parole de Dieu révélée au travers du ministère exceptionnellement béni, Et confirmé, de frère Branham, est vraiment la manne fraîche qui est mise à la disposition de tous les véritables serviteurs de Dieu, afin que la même nourriture spirituelle soit partagée dans le monde entier. Voici le seul moyen pour parvenir à l'unité dans l'Église épouse de Jésus-Christ. Seulement lorsque tous les ministres de la parole assumeront pleinement leurs responsabilités devant Dieu, et enseigneront au peuple avec exactitude les doctrines bibliques, sans avoir des motifs cachés, ou des enseignements pernicieux. Au travers du ministère de frère Branham, Dieu nous a révélé tous les mystères cachés dans la parole, et il a restauré tous les enseignements bibliques. Il nous a fait cette promesse. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain, et la soif de l'eau, mais la faim, et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amos 8, 11. Nous remercions notre Seigneur de nous avoir donné la nourriture spirituelle au temps convenable. Jamais auparavant, la prédication de la parole de Dieu révélée n'a été apportée avec une telle profondeur, et de manière si complète, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons été réellement établis sur tous les biens de la maison de Dieu, et nous pouvons en toute sincérité dire comme Paul. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4. Matthieu chapitre 25 parle des vierges en rapport avec le retour de l'époux. Au sujet de l'Église, Paul écrit : Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11. Du temps d'Abraham, Éliézer fut envoyé pour trouver une épouse à Isaac, le fils promis. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Genèse 24, 16. Le symbole de la Vierge signifie que l'Église épouse d'entre les nations doit se séparer de toute souillure spirituelle et prostitution religieuse, afin qu'elle puisse rencontrer l'époux dans une condition pure et saine. À l'achèvement, les vraies croyants sont comparés aux vierges sages, car après avoir été appelés à sortir et à se séparer, ils ne se sont plus rendus coupables de corruption spirituelle. L'époux céleste viendra prendre une épouse vierge, pure et sans tache. Dans l'Ancien Testament, Israël est comparé à une vierge, et cela en relation avec son rassemblement à la fin des jours. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Jérémie 31, 3 et 4. Dans Apocalypse 14, les 144 000, venant des 12 tribus d'Israël, nous sont montrés avec l'agneau sur la montagne de Sion. Il est dit à leur sujet : Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Verset 4. Ils n'auront appartenu à aucun groupe religieux, ni à aucun groupe messianique en Israël. Ce sont des vrais juifs qui attendent le moment où les deux prophètes envoyés par Dieu se manifesteront à Jérusalem. La femme d'Apocalypse 12 représente la vraie Église. Et dans Apocalypse 17, la femme représente l'Église mondiale dans l'apostasie. Comparons la plus grande promesse de la naissance du Fils de Dieu avec la naissance du Fils mâle, qui sera enlevé au ciel. Apocalypse 12, 5. Toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Romains 8, 19 à 27. Au sujet de la naissance du Rédempteur, nous lisons. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Ésaïe 7, 14. De la Vierge Marie, et non pas la jeune femme, Nous lisons que l'ange Gabriel lui donna la promesse de la naissance du Fils de Dieu. Elle crut la parole de la promesse, le Saint-Esprit vint sur elle, et la puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre. Ainsi la parole devint chair, et le Fils de Dieu naquit. Matthieu 1, Luc 1. Marie est le modèle pour les vierges sages. Elles ne reçoivent pas seulement l'onction de l'Esprit, comme les vierges folles. Mais elles reçoivent également la semence parole. Elles n'ont aucune relation avec un homme qui propage des interprétations, comme il est aussi dit de Marie, qui ne connaissait point d'homme. Luc 1, 34. La parole est la semence. Et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, viendra sur les vierges sages, de la même manière qu'il vint autrefois sur Marie. Les sages n'ont pas seulement des lampes, ce qui représente l'éclaircissement, mais elles ont en plus la plénitude de l'Esprit dans leur vase. En fait, elles sont elles-mêmes devenues des vases d'honneur pour le Seigneur. 2 Timothée 2, 19 à 21. Responsabilité devant Dieu. Nous arrivons maintenant à la responsabilité directe que nous avons devant Dieu. Tous les prophètes ont eu leur temps, et leur ministère. Chaque serviteur établi par Dieu exécuta son ministère dans la volonté de Dieu, et en accord avec la parole de Dieu pendant son époque. Jean-Baptiste avait reçu sa mission, tout comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Et sur l'île de Patmos, Jean avait aussi reçu la sienne. Avec gratitude, nous reconnaissons que frère Branham également eut son ministère en son temps, il lui avait été confié la plus grande responsabilité de tous les temps, qui consistait à résumer tout ce qui avait été révélé aux apôtres et aux prophètes, afin que l'Église épouse soit ramenée à la parole originale. Quiconque croit selon les Écritures a le droit de poser la question suivante. Qui dans notre temps a reçu de Dieu un appel direct et un mandat divin pour apporter le message dans le monde entier juste avant le retour de Christ? Aucun serviteur de Dieu n'a besoin de parler de lui-même. Aucun prophète, aucun apôtre n'a eu besoin de le faire. Cependant, tous les apôtres et prophètes ayant reçu une responsabilité directe devant Dieu, en vertu de leur appel et de leur mandat divin, étaient conscients de leur ministère. Par exemple, Pierre dit, « Homme frère, vous savez que, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile, et qu'ils crussent. » Acte 15, 7. Paul témoigna, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. » Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 46 à 49. Lorsqu'il fut demandé à Jean-Baptiste qui il était, sa réponse fut directe et sans hésitation. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Jean 1, 23. Il est écrit dans le dernier chapitre de la Bible. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Apocalypse 22, 6. Nous savons tous qu'il y a des gens dans le monde qui portent de grandes responsabilités dans certains domaines. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Notre préoccupation est la responsabilité dans le royaume de Dieu. Pendant plus de 40 années, j'ai exécuté avec une responsabilité directe devant Dieu, ce que le Seigneur lui-même m'avait ordonné de faire, au lever du jour le 2 avril 1962. Malgré tout ce que Satan a fait depuis 1979 pour détruire l'œuvre de Dieu, et me détruire, je dois rester fidèle à l'appel céleste et continuer à servir Dieu selon l'ordre qui m'a été donné, dans une entière responsabilité devant Dieu. Après tout, Ceci n'est pas mon œuvre, mais l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas ma parole, mais sa parole. Ce n'est pas mon Église, mais son Église, qu'il a lui-même rachetée, et qu'il appelle maintenant à sortir par ce dernier message. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. À la fin, il se présentera à lui-même une Église glorieuse, sans tache ni ride. Éphésiens 5, 27. L'époux céleste a une épouse sur cette terre, et tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse entendent maintenant la voix de l'époux. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que sa parole avec toutes les promesses soit maintenant apportée dans le monde entier pour la dernière fois. Et nous remercions tous les frères dévoués qui prennent part à cela. Nous sommes aussi reconnaissants pour l'Église locale ici à Krefeld, et pour l'œuvre missionnaire internationale. Nous sommes particulièrement reconnaissants de l'opportunité que nous avons de transmettre des émissions de télévision dans plusieurs langues, notamment en allemand, en anglais et en russe. Par ce canal, des millions de gens ont pu entendre l'Évangile éternel. La moisson est grande, particulièrement en Afrique. Les prédications de chaque début du mois, qui ont lieu au centre missionnaire de Krefeld, sont traduites simultanément en 12 langues, dont 7 sont transmises en direct par Internet dans le monde entier. Ces prédications suscitent à chaque fois un écho très favorable, et une grande gratitude envers Dieu. Nous retransmettons aussi en direct en 2 langues, nos réunions de chaque fin du mois qui sont tenues à Zurich, en Suisse. Tous sont cordialement invités à prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Nous continuons d'envoyer dans le monde entier les prédications de frère Branham, ainsi que les lettres circulaires, livres et brochures dans les langues principales, afin que tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse puissent avoir l'opportunité de marcher d'un même pas. Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Apocalypse 22, 10. Depuis l'ouverture des sceaux, nous reconnaissons vraiment que le temps est proche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit maintenant à l'Église. Amen. Compte rendu missionnaire. C'est une chose extraordinaire quand on peut voir et vivre ce que Dieu fait dans le monde entier. L'année 2007 est déjà en grande partie derrière nous. Chaque mois fut rempli de réunions spéciales dans différents pays. Entre 75 000 à 80 000 personnes ont entendu la parole de Dieu lors de mon voyage missionnaire en juillet, qui m'a conduit dans 5 pays du continent africain. Des stades de sport furent remplis avec 18 000 personnes dans une seule réunion. Pour nous, de telles réunions sont presque inimaginables. Dans l'ensemble, il y a eu 21 réunions, et Dieu a puissamment déversé ses bénédictions, qui certainement produiront beaucoup de fruits pour l'éternité. Par la grâce de Dieu, j'ai pu rester fidèle à mon appel, et comme les 40 dernières années, je continue les voyages missionnaires mensuels. En général, je suis au centre missionnaire pendant 2 semaines, et en voyage missionnaire, le reste du mois. Je remercie chacun de vous pour vos prières qui m'accompagnent dans mes voyages. C'est en effet un triomphe pour la vérité. Le dernier appel retentit, et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, sortent, sont mis à part, sont purifiés et blanchis. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est le vainqueur de Golgotha. Après avoir vaincu Satan, la mort et l'enfer, Dieu a couronné l'œuvre de la rédemption par sa résurrection. Maintenant, c'est notre devoir d'amener en son nom toutes les nations à l'obéissance de la foi. Romains 1, 5. Paul écrit aux croyants, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Romains 1, 6. C'est à nous que cette parole est adressée aujourd'hui. Nous sommes ceux qui ont accepté le mandat divin, et ceux qui ont cru le message de tout leur cœur. Ce qui est écrit dans Romains 11, du verset 4 à 7, reste valable pour toujours. Tout d'abord la question est, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Mais l'élection l'a obtenue. Ce sont des déclarations d'une grande importance, et d'une réalité divine valable pour tous les âges. Les élus forment maintenant ce dernier reste, et ce sont seulement eux, qui atteindront le but. De même, ce que notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 8 verset 47, reste valable pour toujours. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. La même chose s'applique à 1 Jean 2, verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Dans 1 Jean 4, verset 6, l'apôtre va jusqu'à dire, nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il en a toujours été ainsi pour les élus, même jusqu'aujourd'hui. Dans cette lettre circulaire, nous avons traité du sujet de l'envoi, et de la responsabilité. Cette responsabilité qui m'a été confiée ainsi qu'à tous les vrais serviteurs de Dieu. Les prédicateurs qui sont poussés par l'envie, animés par la jalousie, et qui propagent de graves calomnies, devront rendre compte devant Dieu. Par leurs actions, ils révèlent leur vraie nature, et ainsi s'accomplit cette parole. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. 1 Jean 3, 11 et 12. Malheureusement, depuis le commencement, il a toujours existé deux semences distinctes. Les uns haïssent, et les autres sont haïs. Les uns tuent, et les autres sont mis à mort. Les uns persécutent, et les autres sont persécutés. Les uns calomnient, et les autres sont calomniés. Etc. Ensemble, avec tous les véritables frères du monde entier, qui portent aussi la même responsabilité devant Dieu, je regarde à ce que le Seigneur fidèle fait maintenant pour l'édification de son Église, et non pas à ce que Satan, qui est un voleur, et un meurtrier, apporte comme destruction. De toute manière, le temps vient où sera manifesté qui nous servons. Tous ceux qui propagent leurs propres interprétations, pour attirer des disciples à leur suite, ne sont d'accord que sur un seul point, à savoir rendre peu crédible celui qui porte la véritable parole, et le remettre en question. Ils font cela afin de rendre leurs interprétations crédibles aux yeux du peuple. Et c'est là que se trouve l'œuvre de l'ennemi sous une apparence pieuse. Seulement la parole de Dieu demeure éternellement, et elle seule est la semence originale. La véritable épouse sera une épouse parole. Pour ce qui concerne le ministère de frère Branham, j'en ai rendu témoignage depuis le début. Cela peut être lu dans toutes les lettres circulaires depuis 1966, disant qu'il a été l'homme envoyé par Dieu, le prophète promis pour notre temps. Avec la même insistance, j'ai toujours dit que nul sur cette terre n'a le droit de tordre le sens des citations de frère Branham pour sa propre ruine. 2 Pierre 3, 14 à 18, afin de soutenir son propre enseignement. Quand on considère le grand nombre d'opinions personnelles et interprétations particulières en circulation dans le milieu du message sur un sujet, même un simple d'esprit reconnaîtra que toutes ne peuvent être correctes. Dieu n'a qu'une réponse juste pour chaque thème. En ce qui me concerne, le message est la parole, et la parole est le message. Nul n'a le droit d'ajouter, ou de modifier, quoi que ce soit. Tout est en parfaite harmonie. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. 60e anniversaire de l'État d'Israël. Mai 1948. Mai 2008. Ainsi dit le Seigneur. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jérémie 31, 21. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Ézéchiel 39, 27. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Amos 9, 14 et 15. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 32 à 35. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Luc 21, 24. Nous sommes la génération privilégiée, car nous pouvons témoigner de l'accomplissement de toutes ces promesses que Dieu a données à Israël. Nous bénissons le peuple d'Israël, au nom de Elohim Yahvé, et nous souhaitons la paix de Jérusalem. Shalom. Invitation au voyage pour le jubilé de l'État d'Israël, en 2008. Dieu voulant, nous planifions un voyage en Israël, du 5 au 15 mai 2008 afin de prendre part aux célébrations du 60e anniversaire d'existence de l'État d'Israël. Ce voyage sera très spécial pour tous ceux qui pourront se joindre à nous. Nous prendrons soin de la traduction en langue allemande, anglaise et française. Tous les voyages que nous avons entrepris jusqu'à ce jour ont été des grandes bénédictions pour tous les participants. Il serait bon si plusieurs frères, sœurs, amis et particulièrement les jeunes pouvaient venir. Nous savons qu'il y a ceux qui doivent requérir un visa dont l'octroi pourrait être refusé. La Terre Sainte est une destination de vacances très agréable pour les croyants. S'il vous plaît, nous vous prions de prendre votre décision au plus tôt, afin que nous connaissions le nombre de ceux qui voudraient prendre part à cette expérience. Je suis un soldat de la croix, un disciple de l'agneau, aurai honte de son nom sur moi, ou craindrai-je de défendre sa cause? Dois-je aller aux cieux sur des lits de fleurs, et dans la facilité, tandis que d'autres combattirent pour Dieu, et ne vécurent que dans l'adversité? Des ennemis se dressent devant ma face. Que puis-je faire pour enrayer ce torrent de haine, dans ce monde hypocrite, auprès de qui trouver grâce pour m'aider à vivre dans sa présence souveraine? C'est sûr, pour vaincre, je dois combattre pour la foi. Aussi Seigneur, accorde-moi du courage de supporter la douleur, et de porter ma croix, comme un vaillant soldat, jusqu'à la fin du voyage. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Photo. Frère Franck, à l'endroit où Dieu l'a placé pour prêcher la parole. Cette photo fut prise en septembre 2007. Photo. Lors du premier week-end de septembre 2007, la salle des réunions du centre missionnaire était de nouveau remplie. Ils viennent de l'est et de l'ouest, du sud et du nord, ils viennent des pays lointains. Jusqu'à ce que le dernier soit entré. Photo. En juillet 2007, des réunions exceptionnelles furent tenues dans 5 pays d'Afrique. Au total, il y a eu 21 réunions dans lesquelles 75 à 80 000 personnes prirent part dans différentes villes. Les deux photos furent prises en République démocratique du Congo, CIO, à Lubumbashi, et ci-dessous, à Mbujimai. Cela nous montre que, aujourd'hui encore, les gens se rassemblent pour écouter la véritable parole de Dieu. La plupart de ceux qui prirent part à ces réunions sont des frères et sœurs qui croient au message du temps de la fin, et qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un remerciement spécial aux frères qui ont organisé et planifié ces réunions d'une manière excellente.